Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour Raymond Boudon.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau dans nos studios à Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sociologue, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Et vous venez défendre la vision libérale de la démocratie. Est-ce que vous voulez bien déjà expliquer ce que libéralisme vient faire avec démocratie ? Est-ce que le libéralisme n'est pas seulement économique ?
Non, le libéralisme n'est pas seulement économique. On peut parler d'une théorie libérale de la démocratie parce que c'est une théorie qui prend, au fond, la démocratie très au sérieux. C'est-à-dire, c'est une théorie qui part de l'idée que le fondement ultime de la légitimité, c'est le citoyen individuel, autonome et doté de jugement, doté de bon sens. Alors vous me direz, comment est-il possible dans une démocratie représentative, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Alors je crois que pour résoudre la contradiction, l'auteur qui est le plus utile, c'est Adam Smith dans sa théorie du spectateur impartial, qui a été reprise bien après par des auteurs contemporains. Mmh. Cette théorie, grosso modo, si j'ai une seconde pour l'expliquer, veut dire que sur toutes sortes de sujets, pas sur tous, mais sur toutes sortes de sujets, on peut partir de l'idée que le citoyen est un spectateur impartial. Ça veut dire que sur ces sujets-là, ses opinions, ses options ne se fondent pas sur ses intérêts, ne se fondent pas sur ses passions, ne se fondent pas sur ses préjugés. Ça n'est pas vrai de tous les sujets. Mais si vous prenez, par exemple, des sujets de caractère relevant de la justice, eh bien, dans ce cas-là, on peut supposer que beaucoup de citoyens sont dans la position du spectateur impartial, en ce sens qu'ils ne sont pas menacés par la justice, par conséquent leurs intérêts ne sont pas en jeu, leurs passions ne sont pas en jeu, et d'autre part, les questions de justice sont des questions tellement humaines qu'elles ont été présentes dans l'esprit des gens de toute éternité. Par conséquent, on peut supposer que s'ils se posent des questions sur la justice, eh bien, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de gens, seront dans la position du spectateur impartial. Donc vous voyez, ça, je crois que c'est une idée extrêmement importante, l'idée que sur certains sujets, l'opinion du citoyen de base doit être prise en considération. Non seulement elle doit être prise en considération, mais elle l'est. En ce sens qu'il y a toutes sortes d'évolutions qu'on ne comprend pas si on ne voit pas que les décisions publiques ont été faites sous le regard du spectateur impartial.
Ah, vous le soulignez que c'est une idée ancienne qui remonte à Adam Smith, mais qui pourtant est d'actualité aujourd'hui, d'autant qu'on assiste aujourd'hui à une démocratie spectacle un petit peu. Et vous parlez justement de la justice, on voit bien qu'il y a une tendance dans l'opinion aujourd'hui, en mettant en valeur par exemple les victimes ou à une vision passionnée de la justice, et là on s'éloigne de l'idée d'un spectateur impartial.
Oui, alors pour répondre à votre première question, effectivement, l'idée d'Adam Smith est forte, et le fait qu'elle est forte se trouve confirmé par le fait qu'elle est reprise par un certain nombre d'auteurs contemporains. On pense par exemple au philosophe politique américain John Rawls, qui est probablement un des noms les plus connus dans cette matière, qui lui introduit la notion de voile de l'ignorance. C'est un petit peu la même chose. Le citoyen sous le voile de l'ignorance est un citoyen dont on essaie de deviner les opinions si on le suppose indemne de l'action ou de l'influence de ses intérêts et de ses passions. Pour votre seconde question, alors il faut distinguer le court terme et le moyen terme. Dans le court terme, c'est vrai. C'est vrai que les passions peuvent intervenir. C'est vrai que dans le court terme, vous pouvez avoir une politique spectacle. Le court terme donne souvent l'impression que les citoyens sont ballottés par ce qu'ils voient à la télévision ou ailleurs. Mais ça, c'est vrai du court terme. Sur le long terme, sur le moyen et le long terme, c'est différent. C'est ce qui explique que vous avez des idées qui s'imposent de manière totalement irréversible. Parce que sur le long terme, il y a une décantation qui se fait et les citoyens finissent par être capables de déterminer de façon objective ce qui est bien. Un exemple extrêmement banal, le principe de Montesquieu, de la séparation des pouvoirs. Il faut bien voir qu'à l'origine, c'était considéré comme un principe vraiment très révolutionnaire, parce qu'on vivait plutôt avec une fausse évidence en tête, qui avait été théorisée par Jean Bodin, selon laquelle un pouvoir politique qui fonctionne bien, qui tourne bien, est un pouvoir concentré. Et voilà que Montesquieu arrive et dit, mais pas du tout, un pouvoir qui fonctionne bien est un pouvoir qui est divisé, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. C'était une idée assez révolutionnaire. On l'a beaucoup contesté, et en France encore aujourd'hui, elle est parfois contestée par certains. On voit très bien que certains pays comme la Russie ne l'acceptent que du bout des lèvres. Bon, mais d'un autre côté, dans tout le monde démocratique, dans tous les pays qui sont considérés, qui sont classés comme démocratiques, c'est un principe qui est admis de façon irréversible. Prenez un autre exemple, celui de la peine de mort. On voit très bien que la peine de mort, Dieu sait qu'elle a soulevé les passions. Mais vous avez typiquement là un sujet sur lequel les gens moyens, le citoyen quelconque, n'est pas directement concerné. Et il n'est pas menacé, il est mort, etc. C'est ça qui explique que vous avez cette extension de l'abolition dans la plupart des démocraties maintenant. C'est ce qui explique qu'on considère comme vraiment une anomalie de la démocratie américaine, qu'elle le maintienne par certains côtés. Vous avez là un phénomène d'irréversibilité qu'on voit se produire sous les yeux. Oui, c'est vrai, le Japon le maintient, mais l'utilise à très, très faible dose. La Chine l'utilise à forte dose parce qu'elle n'est pas encore une démocratie. Alors, ce qui est frappant, c'est que, prenez l'affaire du trou. Au moment de l'affaire du trou, cette affaire particulièrement horrible, vous vous souvenez sans doute, où un criminel avait enfermé deux jeunes filles, les martyrisées, violées, tuées, etc. Ça a provoqué un émoi, une émotion considérable dans l'opinion publique belge. Les gens ont défilé avec des ballons blanc, etc. Mais vous observez par ailleurs qu'aucun politique n'a essayé d'exploiter la situation. Les sondages montraient que les gens auraient souhaité à ce moment-là le rétablissement de la peine de mort. Mais aucun politique n'a essayé d'utiliser, de profiter de la situation. Pourquoi ? Parce que les politiques ont bien senti qu'une fois que l'émotion aurait été calmée, les raisons objectives qui fondent l'abolition de la peine de mort seraient réapparues à la surface. Et c'est pourquoi vous n'avez eu aucun effort de personne pour essayer de profiter de la situation. Et pourquoi est-ce que s'est imposé l'abolition de la peine de mort s'impose de plus en plus? Même aux États-Unis, il y a des mouvements très forts. Ça va être supprimé aux États-Unis un de ces jours, certainement. Et bien parce qu'il y a des raisons objectivement fortes de la supprimer. Un, on sait très bien définitivement maintenant par toutes les recherches de criminologie qu'elle n'a aucune valeur dissuasive. Aucune valeur dissuasive. Elle ne fait pas baisser du tout la criminalité. Deuxièmement, elle est cruelle, ça c'est une évidence. Et puis troisièmement, elle est irréparable en cas d'erreur judiciaire. Alors voilà des raisons fortes. Et le spectateur impartial les voit, ces raisons. C'est pourquoi, sur le long terme, vous avez ce phénomène. Alors, vous voyez, ce modèle du spectateur impartial est indispensable si on veut comprendre les phénomènes irréversibles qui se passent dans les sociétés sur le long terme. Sur le court terme, les choses sont beaucoup plus compliquées, les passions, etc., jouent un rôle beaucoup plus grand.
Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance lourde en ce moment dans nos démocraties à aller vers, je ne parle pas seulement de la France, vers des médias spectacles qui mettent en spectacle l'actualité et la contrepartie aussi, une politique spectacle?
Oui, il y a une politique spectacle, irrécusable, incontestable. C'est la conséquence de l'importance de la télévision, que les gens aiment bien regarder des images, etc. Mais la question, c'est de savoir quels effets elles ont sur les opinions.
Tout à fait,
oui. Alors c'est ça qui est plus compliqué. Et alors si on regarde un petit peu les enquêtes sérieuses sur ce sujet-là, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup moins déterminés par ce qu'ils voient qu'on ne le croit. Je cite toujours plusieurs exemples qui remontent peut-être à un certain temps, mais qui sont tout de même assez intéressants. Lorsque les Russes lancent leur Spoutnik, ils l'ont effectivement lancé. Mais lorsque la télévision des pays de l'Est a présenté la nouvelle au peuple des pays de l'Est, leur réaction l'extraction, on le sait, par les enquêtes plus ou moins clandestines qui étaient faites à l'époque, nous sommes à l'époque soviétique, la réaction des gens, c'est le dernier bobard de la propagande soviétique. Donc, vous voyez là, l'esprit critique à l'œuvre. D'autre part, il y avait un économiste suédois du nom de Lindbeck, qui, il y a quelque temps déjà, s'était posé la question de savoir quelle était l'influence de la publicité. Et bien, il s'était aperçu qu'une très forte proportion des produits lancés à grand renfort de publicité ne se vendent pas. Tout simplement parce que la publicité fonctionne comme une information. Ça peut attirer l'attention des gens sur l'existence d'un produit. Mais ceci dit, à partir de ce moment-là, les gens, l'esprit critique fonctionne. On interroge sa voisine, on interroge sa concierge, sa cousine, etc., pour savoir si le produit en question est effectivement fiable. Et puis, si tout le monde critique, eh ben, on l'achète pas, finalement. Donc, vous voyez, c'est vrai que la télévision joue un rôle de plus en plus grand, que les images, que les politiques se laissent aller. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parfois, elles se transforment formé en vedette de télévisé, parce qu'on ne sait pas très bien, ce n'est pas absolument sûr que ça ait une influence vraiment positive sur leur action ni sur leur image auprès du public. Oui. Mais ils le font.
Est-ce que les élections ne deviennent pas très émotionnelles ?
Je ne crois pas, non, je ne crois pas, parce que si vous regardez les sondages qui sont faits au moment des élections en profondeur, vous apercevez toujours que les gens ont des raisons de voter comme ils votent. Alors, ceci dit, bien sûr, il y a des gens qui sont plus éclairés que d'autres. Il y a des questions de compétences qui sont en jeu sur certaines questions. Mais en fait, les gens ne votent que très rarement, en réalité, de manière mécanique. Ils votent pour telle ou telle option parce qu'ils sont persuadés, ils ont des raisons de croire que c'est la bonne option. Ceci dit, ils peuvent se tromper. Sur des sujets économiques, par exemple, pendant très longtemps, les gens ont cru que la mécanisation, le progrès technique entraînait le chômage. C'est faux. Parce que la machine, la nouvelle machine, il faut la produire, il faut la concevoir, il faut les gens pour la produire, pour la concevoir, pour l'entretenir, etc. Donc, une nouvelle machine, en termes nets, ça peut créer de l'emploi. Mais celui qui est viré parce qu'on l'a remplacé par une machine, lui, évidemment, il va être convaincu, vous aurez du mal à l'en faire démordre, que le progrès technique engendre le chômage. Donc, vous voyez, il y a ces questions, il y a des questions de compétences, il y a des questions de position sociale. Bon, mais en dehors de ça, il y a aussi, sur beaucoup de sujets, et sur le long terme, des opinions les gens, fondamentalement, essayent de se forger l'opinion la meilleure possible, la plus crédible possible.
Et en défendant ce principe qui est du spectateur impartial, vous attaquez aussi à tous ces phénomènes de lobbying que l'on peut observer dans nos démocraties, qui est influencé par les États-Unis, vous diriez, ou c'est un mouvement de fond ?
Non, le phénomène du lobbying, c'est un phénomène normal, où ça devient inquiétant du point de vue de la démocratie, précisément. C'est à partir du moment où les lobbies, les minorités actives, arrivent à faire prendre leur point de vue, leur vérité pour la vérité. C'est à ce moment-là que les choses ne vont pas. Mais en général, ça ne dure pas, ça ne marche que pendant un certain temps.
Là aussi, est-ce que vous défendez donc ce spectateur impartial et pourtant vous êtes très attaché à la démocratie représentative ? Est-ce que c'est pas contradictoire quelque part ?
Non.
De se dire que en fait, une démocratie plus on parle de démocratie participative, c'est un mot à la mode en ce moment, mais si on défend le principe de spectateur impartial jusqu'au bout, on peut se dire qu'une démocratie plus participative que représentative peut marcher.
Oui, mais en termes pragmatiques, la démocratie participative, ça ne veut rien dire. Ça veut peut-être dire quelque chose au niveau local, comme on cite toujours Porto Alegre, c'est là que ça a commencé, mais là, c'est de la démocratie municipale. Alors peut-être que au niveau municipal, on peut avoir la démocratie plus de démocratie. Mais au niveau national, non. On ne voit pas 1,3 milliard de Chinois faire de la démocratie participative. Il faut un relais. Le meilleur relais qu'on a inventé, c'est tout de même le Parlement. Enfin, c'est ce que Montesquieu avait expliqué. Cela dit, il faut que le Parlement soit respecté. Il faut qu'il soit respecté et qu'il soit respectable. S'il n'est pas respecté par l'opinion, alors à ce moment-là, la démocratie marche mal. Bien sûr.
C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs et le principe d'un spectateur impartial sont liés.
Tout à fait, parce que si on veut vraiment prendre au sérieux l'idée du spectateur impartial, l'idée qu'en dernière analyse, c'est l'individu, son jugement, son autonomie qui est le souverain. Ensuite, le principe d'efficacité, le principe pratique, fait qu'on ne peut pas la démocratie directe, on le sait quand même depuis Aristote, depuis Rousseau aussi, la démocratie directe ne peut marcher qu'à petite échelle. Donc ça marchait à Genève, ça marchait à Athènes, ça marche peut-être à Porto Alegre au niveau municipal, ça ne peut pas marcher au niveau d'une nation plus grande. Alors à partir de ce moment-là, il faut voir qu'on n'a rien trouvé de mieux que la séparation des pouvoirs de Montesquieu, d'où l'importance extraordinaire de ce principe, et du fait que les démocraties qui ont le plus de succès, enfin, sont celles qui marchent le mieux, sont celles où vous avez l'impression que vous avez une véritable division du travail entre l'exécutif et le législatif. Quand on voit par exemple à la télévision la Chambre des communes, on voit très bien que la Chambre des communes existe et qu'elle est respectée, même si parfois ça donne aussi un petit peu le sentiment d'un spectacle. Là, il y a une véritable division du pouvoir et c'est un principe absolument fondamental. Enfin.
Parce que pour qu'il y ait spectateur impartial, il faut qu'il ait le choix.
Bien sûr.
Parce que s'il n'y a pas choix, il n'a pas à mettre d'opinion. Et différentes opinions ne sont pas...
Oui.
Il faut qu'il y ait des choix de valeur à peu près égales pour que...
Oui.
Pour qu'un choix puisse s'établir.
Oui, alors ça dépend des sujets. Mais oui, il faut qu'il y ait un choix, bien sûr. S'il n'y a pas de choix, si la démocratie n'est pas possible. Il faut qu'il y ait choix. C'est pour ça que le spectateur impartial va avec la démocratie représentative. La démocratie représentative va avec les élections. Mais comme les élections, on ne peut pas les faire tous les matins. Dès le début, on a compris qu'il fallait, si on prend le spectateur impartial au sérieux, il fallait recueillir son opinion autrement. C'est pour ça qu'on a inventé au début ce qu'on appelait les straw votes, les votes de paille. Les votes de paille, c'était les premiers sondages. Et le fait que vous ayez une institution, les sondages sont devenus, non pas une institution, mais une quasi-institution. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement normal de la démocratie exige qu'on essaye de voir quel est l'état de l'opinion sur tel et tel sujet entre les élections. Alors, là, il y a une difficulté qui se produit, c'est que ce sont les médias, les politiques qui s'emparent des sondages et qui ne les regardent pas souvent suffisamment en profondeur, parce que c'est difficile de lire un sondage, c'est difficile d'interpréter, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que c'est aussi difficile que de lire une partition musicale. Lire une partition musicale, bah, si on n'a pas fait un peu de solfège, on n'y arrive pas. Enfin, le sondage, c'est la même chose. Parce qu'une fois que vous avez vu que tant de personnes pensent que il faut voir comment ça se ventile en fonction de l'âge, en fonction d'autres variables, en fonction de l'origine sociale, etc. Et ça peut devenir assez rapidement assez compliqué à lire. Enfin, alors, malheureusement, dans la vie pratique, les politiques eux-mêmes s'intéressent uniquement à une seule chose, c'est combien de gens sont en ma faveur. Enfin, c'est tout ce qui s'intéresse. Mais ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière. Mais de plus en plus, tout de même, on voit que les sondages sont utilisés de manière plus attentive, plus complexe, et que par conséquent, c'est à partir de ce moment-là qu'on obtient une véritable information sur l'état de l'opinion, sur les différences entre les opinions selon les catégories sociales, selon les idéologies, selon les croyances religieuses, tout ce que vous voulez.
Alors, à la lumière de ce que vous venez de dire, Raymond Boudon, l'exigence de la séparation des pouvoirs et le principe même du respect d'un spectateur impartial, comment est-ce que vous jugez la situation en France et en Europe ?
Parce qu'il me frappe deux choses. Si la situation de manière générale en Europe, ce qui me frappe, c'est un besoin exprimé par les spectateurs, exprimé par les gens, d'une intensification de la séparation des pouvoirs. Pensez par exemple aux lois sur le financement des partis. Quel est leur sens ? Eh bien, leur sens consiste à essayer de séparer le pouvoir économique et le pouvoir politique. Regardez ce qui se passe en Suède. La Suède a complètement revu l'organisation de son système politique. Les ministères sont devenus en Suède très peu nombreux. Et les fonctions anciennes des ministères sont confiées maintenant à des agences indépendantes qui sont évaluées. Ça veut dire quoi ? Quelle est l'origine et quel est le sens de ce type d'évolution ? Obtenir une meilleure séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir bureaucratique. Autrement dit, si vous regardez l'évolution de la vie politique dans l'Europe, ce que vous observez, c'est une intensification de la division du pouvoir, de la séparation des pouvoirs, non seulement les pouvoirs classiques de Montesquieu, mais le pouvoir économique, le pouvoir bureaucratique, le pouvoir administratif, le pouvoir syndical, qui est aussi un pouvoir. Vous observez là aussi, si vous prenez les pays scandinaves, une séparation assez nette qui s'est faite, qui s'est accentuée entre le pouvoir politique et le pouvoir syndical. Les syndicats suédois sont très représentatifs dans la mesure où, si vous n'êtes pas syndiqué en Suède, vous ne toucherez pas d'allocation de chômage si vous retrouvez sur le tapis. Par conséquent, ceci incite les gens à syndiquer. Les syndicats suédois sont très puissants, comme les syndicats allemands. Mais la contrepartie et la conséquence de leur puissance fait que ils ont dans la tête une ligne jaune, c'est-à-dire quand il y a des questions politiques, ce sont des questions politiques, ils ne les abordent pas. Vous voyez, ils défendent leurs mandants, ils défendent les salaires, ils défendent les conditions de vie, etc. Mais ils ne défendent pas, ils n'interviennent pas dans les questions qui relèvent du politique. Par exemple, en Angleterre, un peu la même chose. On imagine mal un syndicat anglais d'enseignants émettre son opinion sur le fait de savoir s'il faut augmenter ou diminuer le nombre des fonctionnaires. C'est la ligne jaune, parce que c'est une question politique. Donc les syndicats n'en parlent pas, idem en Suède. Alors, vous voyez, je prends cet exemple parce qu'on voit qu'en France, la séparation des pouvoirs est tout de même moins nette. Enfin, le pouvoir syndical, le pouvoir politique, la séparation est moins nette. Ça s'explique, je crois, historiquement. La France est une grande démocratie, bien sûr, mais qui a quand même ses singularités. Et la singularité de son histoire, il suffit de la regarder un petit peu à vol d'oiseau pour s'apercevoir qu'on a eu très souvent des gouvernements autoritaires. Enfin, je parle les deux Napoléon, bon, ben, et puis quand on a essayé, quelquefois, le pendule a été dans l'excès, mais dans l'autre direction. Sous la 4e République, vous avez un excès du parlementarisme, l'exécutif n'existe pas. Enfin, c'est une différence avec un certain nombre de pays voisins, pays scandinaves, l'Allemagne d'après 45, etc. La séparation des pouvoirs est moins. Et ça tient à l'histoire, je pense, l'histoire centralisatrice de la France.
Ou est-ce que c'est un équilibre qui est très difficile à trouver ?
Oui, c'est certainement un équilibre qui est difficile à trouver, qui est constamment en construction, même dans les pays comme l'Angleterre, où on change quand même beaucoup moins les institutions qu'en France. Vous savez que le mode de scrutin ne change jamais, par exemple. Ça fait une différence avec la France. Au contraire, le mode de scrutin est une variable d'ajustement. Bon, il y a des différences, mais même en Angleterre, dans un pays comme l'Angleterre, il faut que la démocratie s'adapte aux conditions nouvelles, etc. Et par conséquent, l'adaptation est constante. Et l'équilibre est toujours difficile à trouver, mais il faut reconnaître que la France a peut-être plus de mal à trouver ça. Tocqueville l'avait déjà dit de manière très nette. Ce qui fait la faiblesse du pouvoir politique en France, c'est qu'il a l'air d'être fort, disait Tocqueville. Ça voulait dire qu'il n'était pas suffisamment équilibré, de telle sorte que quand les choses marchaient mal, les gens allaient dans la rue. Et c'est une grande différence avec d'autres démocraties où les gens se rendent beaucoup moins facilement dans la rue. Enfin, parce que le Parlement, le Bundestag, est respecté, par conséquent, les demandes transitent par ce canal.
Oui, donc il y a un manque de représentativité ou de sentiment de représentativité.
Manque de sentiment, le Parlement, ça tient aux institutions, beaucoup plus qu'aux personnes, je crois, n'est pas suffisamment respecté par le spectateur impartial. Les réformes qui sont proposées actuellement montrent bien qu'il y a du côté du monde politique une conscience du fait qu'il faut redonner du pouvoir au Parlement pour qu'il soit respecté par l'opinion, car l'opinion ne peut respecter une instance que s'il a l'impression qu'elle est vraiment indépendante de l'exécutif.
Sinon, c'est un affrontement un peu stérile entre quelques personnes qui ont le pouvoir et la rue ?
Mais oui, vous savez...
Ça se résume à ça ? C'est un peu grossier
Non, mais ça a une certaine vérité. La rue, si vous y réfléchissez, ce sont des termes que vous ne pouvez pas traduire en anglais ou en allemand. Enfin, pourquoi ? Parce que ça n'existe pas, parce que la politique ne se fait pas dans la rue, depuis que l'Allemagne est démocratique, depuis 1945. Ça ne se fait pas dans la rue. Et pourquoi ça ne se fait pas dans la rue ? Parce que vous avez des syndicats puissants, vous avez un exécutif qui est là, et un parlement qui est respecté.
Qui fait contrepoids, oui.
Vous ne voyez pas de manifestation de masse devant les endroits où siège le pouvoir anglais, par exemple. Ça ne vous le voyez pas. Et je vous dis, le mot la rue, quand les Anglais veulent parler de la rue, ils l'écrivent en français, ils le mettent en italique.
Ah oui, c'est intéressant.
Et en allemand, si vous dites « die Straße », les Allemands ne comprennent pas ce que vous voulez dire. « Straße », c'est simplement une rue, quoi, c'est tout. Ouais. Tandis qu'en France, on utilise notamment le pouvoir de la rue, etc. Oui. Parce que la rue vient corriger, au fond, la mauvaise architecture du système politique.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, quand certains critiquent justement ce trop grand pouvoir de la Russie. Chacun se renvoie la responsabilité de cette situation.
Alors que la responsabilité est à tout le monde. La responsabilité est à tout le monde et on le ressent, puisque vous avez maintenant, vous savez bien, des tentatives de réforme, de rééquilibrage en réalité de la séparation des pouvoirs.
Pour terminer, Raymond Boudon, je note une expression que vous avez écrite. Vous dites que la théorie libérale de la démocratie est mal aimée en France. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
D'abord, il y a beaucoup de confusion autour du mot libéral. Oui. On assimile le libéralisme au libéralisme économique. Oui. Le libéralisme économique est une partie du libéralisme. Il y a une communauté d'inspiration dans le cas du libéralisme politique comme du libéralisme économique. Il y a l'idée que vous avez à la base des individus dotés d'initiatives, d'autonomie, etc. Donc, au niveau philosophique, il y a quelque chose de très profond en commun. Mais en France, alors l'histoire des idées, c'est toujours quelque chose de compliqué, a fait que le libéralisme est assimilé au libéralisme économique, ce qui est faux.
Ce que vous expliquiez au tout début de l'émission.
Oui, c'est ça. Alors, le libéralisme, des gens comme Tocqueville, Benjamin Constant, John Stuart Mill, etc., avaient quelque chose de profondément commun dans leur pensée. C'est exactement ce qu'on vient de dire.
Et vous notez que quelqu'un comme Durkheim, qui était pourtant d'inspiration socialiste, était pour une vision libérale de l'homme.
Oui, au niveau métaphysique, il est libéral quand il dit que l'homme de tous les temps était doté d'esprit critique et d'autonomie. Donc il le dit très très explicitement dès son premier livre, dès sa thèse. Donc là, les choses ont beaucoup changé. Alors je crois que ça a beaucoup changé sous l'influence essentiellement du marxisme, mais aussi du freudisme. Ce sont deux grands mouvements, enfin je n'en ai pas du tout leur importance, hein. Mais ce sont deux grands mouvements qui ont en commun de décrire l'être humain comme décentré par rapport à lui-même et décentré par rapport au monde, comme ayant sur le monde, comme ayant sur lui-même essentiellement des illusions. Enfin, je ne sais pas où ils ont téléchargé ça, mais c'est une idée que la fausse conscience, qui n'est, le terme ne vient pas de Marx, mais l'idée vient de lui, la fausse conscience, c'est l'idée que les gens voient normalement le monde tel qu'il n'est pas, se voient eux-mêmes tels qu'ils ne sont pas. Les gens voient le monde à travers des lunettes déformantes, les lunettes de leurs intérêts ou de leurs intérêts de classe. Chez Freud, c'est autre chose. Les lunettes déformantes viennent d'ailleurs. Enfin, mais vous avez en commun chez ces gens qu'il faut citer parce qu'ils ont eu une influence extraordinaire sur les intellectuels, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, aux intellectuels français de la deuxième partie du XXe siècle, eh bien, ils ont en commun d'avoir une défiance profonde sur l'homme, d'avoir une défiance profonde sur la capacité de l'homme à être autonome, à juger correctement, etc.
Est-ce que Freud ne parle pas du moi ?
Oui, mais le moi est toujours, parasité par le ça d'un côté, par le surmoi de l'autre. Il fonctionne toujours de travers.
Et ça aurait une influence sur la démocratie, c'est ça votre...
Mais oui, parce que si vous partez de ces idées-là, alors ça veut dire, si vous partez de l'idée que l'individu humain est profondément non autonome, qui n'a pas de capacité de jugement, alors à ce moment-là, pourquoi serait-il souverain ? Pourquoi lui confier le pouvoir ? Moi, j'ai toujours pensé que les dérives autoritaires du marxisme, on a vu ce que ça a donné, étaient présentes déjà aux racines du marxisme. Parce que vous ne pouvez pas à la fois penser que la démocratie est une bonne chose, sans penser en même temps que le souverain, c'est-à-dire les gens, ont, dans certaines circonstances du moins, la capacité à juger correctement et qui sont autonomes dans leur jugement. Les deux vont ensemble. Ou bien on rejette cette image de l'homme, mais alors il faut rejeter la démocratie. Et les marxistes ont tout de même rejeté de la démocratie, parce que ce qu'ils appelaient les démocraties populaires, qui étaient supposées être des démocraties d'un degré de validité supérieur, enfin, on sait ce que c'était, des dictatures. Enfin, donc, à mon avis, à partir du moment où vous donnez une image de l'homme aliéné, à ce moment-là, la démocratie, on se demande sur quoi elle repose. Donc, quand ils parlent des droits de l'homme, par exemple, les Chinois, ils disent qu'ils ont une autre conception que nous. Ils disent que nous, on a une conception abstraite des droits, qu'eux, ils ont une conception concrète. Ils admettent la notion de droit à avoir un logement, mais ils n'acceptent pas la notion de droit de liberté d'expression. Et quand il parle de ces choses-là, il s'exprime en opposant, et ça c'est assez régulièrement qu'on voit ça, deux théories des droits. Je crois que l'opposition, ils y croient, c'est pas du tout du cynisme, ils y croient parce qu'ils ne croient pas, à la différence des pays occidentaux ou des pays démocratiques, ils ne croient pas à l'autonomie profonde de l'homme. Et ça, ça s'explique par l'histoire. Il faudra remonter à l'histoire de l'Empire romain, l'Orient et l'Occident.
Merci beaucoup Raymond Boudon pour cette analyse, pour ce plaidoyer pour une vision libérale de la démocratie. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie et à votre bibliographie que nous inscrirons sur le site de Canal Académie, www.canalacademie.com. Merci.
Merci à vous.